Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, l'émission qui aime mettre en lumière les talents français. Le Salon de l'Agriculture vient de fermer ses portes, enfin un jour plutôt que prévu, nous devions être au Salon de l'Agriculture. Mais comme vous le savez, les rassemblements de plus de 5000 personnes en lieu confiné sont désormais interdits en période de coronavirus. Donc pour cette dernière, nous avons rejoint nos studios de Sud Radio avec nos invités que vous allez découvrir dans un instant, des invités investis dans une agriculture 2.0. Car l'agriculture n'est pas en marge de la digitalisation, bien au contraire, on va le voir tout de suite avec Jérémy Winstein, fondateur de The Green Data, et Arnaud Richard de Ecosystem.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à mes invités.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien,
bonjour.
Alors je vous pose cette question à tous les deux. Peut-on dire que les agriculteurs sont à la pointe du progrès ?
Oui, ils sont à la pointe du progrès. On s'aperçoit que c'est des gens qui sont ultra connectés et qui ont un besoin d'information et de connaissances parce que c'est... On le dit, l'agriculture est en pleine mutation, ça devient de plus en plus complexe. Et l'agriculteur doit toujours se mettre à niveau et avec des outils de plus en plus, numériques, digitales, performants. Donc l'agriculteur doit être le plus, numérique possible.
Arnaud Richard, responsable de la communication et des partenariats de Ecosystem. On y reviendra car vous proposez justement des formations pour les mettre à niveau, ces agriculteurs.
Oui.
Jérémy Winstein, ou Winstein, je vais y arriver.
Hein. Winstein.
Winstein, fondateur de The Green Data, je vous pose la même question.
Oui, les agriculteurs sont une profession qui doivent en permanence progresser parce qu'ils sont en face d'un métier qui devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Un agriculteur, c'est quand même quelqu'un qui travaille sur des territoires très diversifiés, qui est soumis à plein de risques. Et ce qu'on dit généralement, c'est qu'un agriculteur, il doit savoir faire une quinzaine de métiers différents. Des métiers techniques, agronomiques, ils doivent savoir faire de la comptabilité, savoir faire
mécanicien, réparer sa machine.
Voilà, savoir conduire des tracteurs, etc., utiliser des outils et même savoir vendre sur des marchés. Donc je vous mets au défi de savoir faire tout ça. Pour un agriculteur, c'est pas facile.
C'est un monde agricole donc, qui est en pleine transition digitale. On a une idée du nombre d'agriculteurs connectés à Internet depuis leur travail. Arnaud Richard, de
chez Ecosystem. Oui, dans les chiffres, c'est à peu près... c'est la profession la plus connectée à Internet. On estime 80% des agriculteurs qui sont connectés à Internet ou qui utilisent des outils, que ce soit réseaux sociaux, Internet, très branchés sur YouTube, très consommateurs. D'outils numériques.
Donc on est très loin de cette image d'Épinal, hein, de l'agriculteur,
oui.
Sur son tracteur, avec son râteau.
Il est dans son tracteur, mais il est connecté en même temps.
Les tracteurs sont connectés.
Oui.
Exactement. Alors venons-en justement à ces innovations pour faciliter le quotidien des agriculteurs. Tout à l'heure, nous verrons comment le Big Data révolutionne l'industrie agricole. Mais tout de suite, on va s'intéresser à vous, Arnaud Richard et Ecosystem. Donc vous proposez des formations, d'agro-académie, on peut dire ?
Oui, d'agroécologie académie. Pour la petite histoire, en fait, c'est la rencontre d'une SCOP à Grouf, hein, qui est depuis 20 ans spécialisée dans l'agroforesterie, donc dans la recherche et la formation terrain pour mettre en place des projets agroforestiers avec les agriculteurs. Et Mathieu Archambault, qui lui, ça fait 15 ans qu'il
forme.
Les fondateurs, donc c'est deux fondateurs avec moi, qui forment sur l'agriculture de conservation des sols. Donc tout le travail agronomique par rapport à des techniques de conservation des sols pour travailler le sol vivant. Et. Ils se sont dit, on a de plus en plus de demandes, donc il faut pouvoir diffuser au plus grand nombre.
Selon une enquête BVA de 2017, plus de 73% des agriculteurs souhaitent s'engager dans une démarche agroécologique, mais manquent de connaissances.
Exactement. Ouais. C'est tout à fait... c'est pour ça qu'on est parti de ce constat, de se dire où on peut mettre nos connaissances à travers une plateforme d'e-learning. Et donc, créer des modules de formation. Donc, c'est 7 modules de formation, de 7 à 8 heures de formation en ligne. Mais nous n'avons toujours, c'est pas 100% digital, c'est aussi l'accompagnement terrain, ouais, parce que c'est très, très important.
Quelles sont les formations les plus demandées par
Alors, les formations les plus demandées sont l'agriculture de conservation, parce que c'est plusieurs techniques et c'est, je dirais, les formations qui sont... les techniques de culture qui sont les plus en vogue actuellement, c'est la transition agroécologique. Et donc, c'est vraiment le retravail du sol. C'est vraiment tout le contraire de ce qui a été... Tout le contraire par rapport à l'agriculture de conservation, de conventionnelle, pardon.
Bah on le voit en Normandie, par exemple, on replante des bocages.
Alors là, oui, c'est de l'agroforesterie, là.
Ouais.
Mais tout à fait, parce qu'on revient aux plantations de haies, parce que ça amène toute une biodiversité. Ouais. Donc, c'est pas qu'on revient en arrière, mais presque, des techniques ancestrales, ouais. Mais pour une meilleure rendement, productivité. Enfin voilà, c'est pas revenir à une agriculture, je dirais, obsolète. C'est une agriculture d'avenir.
C'est ça, et une meilleure utilisation des ressources.
Exactement. Pour une meilleure qualité des produits, meilleure qualité des cultures et des terres. Et c'est la régénération des terres.
C'est le retour du bon sens paysan qu'on avait peut-être perdu.
Oui, oui, tout à fait. Parce qu'on n'avait plus laissé cette place à l'agriculteur. C'était technique, c'était technologique, chimique. Voilà, ils avaient des conseillers qui leur disaient comment utiliser au mieux les produits. Alors, pendant 40 ans, ça a été, on a une agriculture très rendement, enfin très efficace. La France a été la première agriculteur européenne, donc c'était une très belle agriculture. Mais maintenant, face à ces nouveaux changements climatiques, sociétal et puis de régénération des terres qui se sont appauvries, on est obligé de revenir à des cultures, enfin des pratiques qui sont plus respectueuses, mais aussi efficaces, on va dire, parce que c'est 30 ans de recherche sur ces techniques agricoles.
C'était important pour vous, hein, pour Ecosystème, d'être au cœur de l'écosystème de l'AgTech en France, notamment en faisant partie de la ferme digitale.
C'était primordial parce que il faut l'outil numérique maintenant, c'est d'utiliser toutes ces, toutes ces transformations numériques et être au cœur de cet écosystème numérique avec la ferme digitale, ça nous donne une visibilité, ça permet à nous, moyenne structure ou jeune start-up, de pouvoir diffuser auprès des institutions. On parlait de la FNSA, des syndicats professionnels, des chambres d'agriculture, du gouvernement, enfin du ministère de l'Agriculture, d'être présent, de dire voilà, on innove, on est, et surtout, ce qui est très important, dans une positive agriculture. Voilà, oui. C'est le mot aussi de la ferme digitale, c'est respectueux de l'environnement, respectueux du consommateur, mais aussi une agriculture pour porter les agriculteurs, parce que c'est eux qui sont la dynamique de cette agriculture.
C'est ça, on fait évoluer ensemble les nouvelles pratiques agricoles. Mais il faut le rappeler, à la ferme digitale, la majorité des participants de la ferme digitale sont souvent fils ou petits-fils d'agriculteurs. Donc c'est un secteur qu'ils connaissent parfaitement bien. Donc il y a cet amour pour ce domaine-là et cette envie justement d'améliorer leur quotidien.
Exactement. Ouais. C'est des gens qui se sont dit... On veut participer au changement et on ne veut pas faire la même chose qu'on fait mais nos parents ou nos grands-parents qui se sont un peu tués à la tâche et on veut transformer ce secteur.
Quelle est la prochaine étape pour Ecosystème ? Donc là, vous êtes au sein de la ferme digitale, vous gagnez en visibilité, essayez de... D'ailleurs, vous avez beaucoup de participants à vos formations aujourd'hui d'agriculteurs. Oui, combien d'agriculteurs suivent vos formations ?
Alors, on a formé en 2 ans et demi, 2000, un peu plus de 2000, 2000 stagiaires, enfin agriculteurs. C'est d'aller encore... il y a deux axes, c'est de travailler en collaboration avec les coopératives qui vont devoir vraiment aussi se transformer. Et puis l'international, développer et de nouveaux modules pour répondre à d'autres techniques.
Arnaud Richard, responsable de la communication, partenariat et fondateur de Ecosystème, cofondateur de Ecosystème. On revient dans un instant pour continuer à développer cette agriculture 2.0 et toutes ces innovations agricoles. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette émission consacrée au Salon de l'agriculture, à l'agriculture 2.0, à toutes ces innovations agricoles, ces entreprises françaises qui souhaitent réinventer l'industrie agricole. On continue notre immersion dans ces nouvelles technologies avec The Green Data. On en parle tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Jérémy Vinstin.
Bonjour.
Fondateur de The Green Data qui a vu le jour en 2015, donc c'est une entreprise très récente. Alors vous souhaitez mettre la data, en fait les données scientifiques au service de l'agriculture pour les filières agro-industrielles.
Oui, c'est ça. Donc en fait on utilise les données pour fabriquer des outils d'aide à la décision qui permettent aux agriculteurs de définir des stratégies de production ou des stratégies financières qui puissent leur permettre de mieux gérer leur exploitation agricole.
Vous le rappeliez tout à l'heure, hein, ils doivent gérer peut-être 15 métiers différents dans une même journée. Donc
gérer une exploitation agricole, c'est très compliqué. Il faut savoir quoi produire différentes parcelles. Il faut se couvrir par rapport aux risques de marché. Il faut être capable de déployer des nouvelles pratiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il faut en même temps acheter au meilleur prix et puis payer sa main-d'œuvre, etc. Donc tout ça, c'est assez compliqué.
Donc il faut développer des stratégies en plus à long terme,
oui.
Ce qui ne rajoute pas...
il faut développer des stratégies à long terme, en plus dans des environnements de plus en plus risqués.
Ouais.
C'est ça qui est très compliqué pour les agriculteurs, c'est que si on est obligé de faire de la planification pluriannuelle, et en plus on a des incidents climatiques, on a des problèmes sanitaires, on a des prix qui bougent tout le temps, on a une réglementation qui bouge énormément avec une renégociation de la PAC en ce moment.
Ouais.
On ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et avec des exigences sociétales qui deviennent de plus en plus tendues.
C'est vrai, le consommateur aussi est très exigeant. Donc la tâche est difficile.
La tâche est difficile et il y a besoin, pour cette nouvelle agriculture, il y a besoin de nouveaux outils. C'est ça qui nous anime en fait. Pendant les 50 dernières années, je ne dirais pas que l'agriculture était un métier facile parce que ce n'est pas facile. Mais en tout cas, c'était un métier où il y avait moins d'incertitudes économiques. C'était une agriculture sous quota, les prix étaient fixés. L'Union européenne, je dirais, encadrait la planification agricole. Et puis, de plus en plus, on voit que l'Europe se retire, que voilà, il y a le Green Deal qui va probablement adosser la PAC à des sujets environnementaux. Et en fait, on assiste à une sorte de libéralisation de l'agriculture et je dirais une responsabilisation des acteurs.
Alors comment ce Green Data peut permettre à l'agriculteur de mieux exploiter son exploitation, mieux gérer son exploitation agricole ?
Alors nous on fait des simulateurs. Donc nous on croit beaucoup à des outils qui permettent de simuler le futur. Voilà, simuler à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 5 ans, que vous soyez vigneron, éleveur ou exploitant de grandes cultures, vous avez besoin de faire des plans et vous avez besoin en fait de suivre... Comme un GPS, si vous voulez, comme un GPS d'une exploitation agricole, vous avez besoin d'avoir un plan, d'avoir une direction, un objectif, et de le suivre, en fait, au fur et à mesure.
Alors, que peut-on simuler avec The Green Data ?
Alors, en fait, on simule des exploitations agricoles, donc en fait, on peut simuler n'importe quel type de ferme. Donc, que ce soit de l'élevage, des grandes cultures, de la viticulture, ou même de la polyculture, on a fait, en fait, un moteur de simulation qui s'adapte à tout et qui est capable de simuler n'importe quelle ferme, dans n'importe quel contexte, n'importe quelle condition. Donc ça paraît un peu magique comme ça, mais en fait, ça marche. C'est-à-dire que vous êtes éleveur en Bretagne, je suis capable de vous simuler votre plan de trésorerie, votre plan comptable, votre stratégie à 5 ans, et de pouvoir vous permettre d'avoir des scénarios différents et de choisir le meilleur.
On peut éventuellement simuler une crise agricole ?
Absolument, ah bah oui, ça c'est très important. Vous pouvez simuler une crise agricole, donc un retournement des prix. Vous pouvez simuler un incident climatique. Donc, qu'est-ce qui se passe si, du jour au lendemain, vous n'avez plus de fourrage ou bien vous avez un gros incident climatique ? Et derrière, évidemment, il y a toute une logique de structurer les couvertures de risque. Les assurances, l'épargne, le crédit. En fait, il y a toute une culture économique à diffuser dans ce secteur qui, aujourd'hui, n'est pas assez diffusée. Et d'ailleurs, je reviens à ce sujet sur les sujets de e-learning. C'est important de former les agriculteurs à des nouvelles pratiques agroécologique, et ça va être aussi très important de les former à une culture économique et financière qui aujourd'hui n'est pas assez développée dans les campagnes.
Vous avez le sentiment qu'on n'anticipe peut-être pas assez ?
On n'anticipe pas assez. C'est un secteur où on n'anticipe pas assez, où on a l'habitude plutôt de regarder le passé, c'est-à-dire même regarder l'année dernière. Il y a beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise dans ce secteur, mais il n'y a pas de culture d'anticipation.
Alors, la forme que prend justement ce big data, ce sont donc les données scientifiques. C'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle? Comment est-ce que des algorithmes?
C'est
comment
ça. Arriver
à...
Alors, en fait, pour simuler le futur, on est obligé de faire ce qu'on appelle des modèles, des algorithmes qui vont permettre de projeter différents scénarios au plus près possible de ce qu'on peut savoir. Alors, on n'est pas Madame Irma, on n'a pas une boule de cristal pour prévoir les crises, mais en tout cas, on peut simuler des fluctuations et des crises et voir la résilience des exploitations agricoles. Est-ce que vous êtes capable de résister à un crash? Voilà, on fait des crash tests, on fait des choses comme ça. Donc pour ça, il faut des algorithmes qui ressemblent d'ailleurs un peu à ceux qu'on trouve dans l'industrie. Quand vous faites un crash test de voiture, vous avez plein d'algorithmes qui calculent en fait les impacts du changement de contexte. Et on va s'appuyer aussi sur l'historique régional, départemental, sur l'historique de votre exploitation aussi, pour essayer de faire une simulation qui vous corresponde le mieux.
Alors moi, je suis agriculteur, j'ai envie justement de profiter de cette technologie. Comment ça se passe? Quelle forme prend-elle, cette technologie?
Alors, en fait, c'est des technologies qui sont des outils d'aide à la décision, généralement portés par des conseillers. Donc, aujourd'hui, on estime que les agriculteurs, pour discuter de ce genre de stratégie, doivent le faire avec leurs partenaires. Donc, traditionnellement, leurs partenaires, par exemple, coopératives, quand il s'agit de définir une stratégie de production ou une stratégie de transition agroécologique. Si vous voulez parler de stratégie financière, il vaut mieux le faire avec votre banquier, voilà, ou avec votre centre comptable, parce que le faire tout seul dans son coin, ça n'a pas grand intérêt. Donc en fait, c'est des outils assez collaboratifs et qui permettent d'une certaine façon de réconcilier aussi les différents acteurs au sein des écosystèmes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche de nos outils à la ferme digitale, c'est que je trouve qu'on est tous dans une démarche de réconciliation de l'agriculture.
Oui, c'est important de le dire.
Voilà, de réconciliation de l'agriculture avec la société, avec les acteurs économiques. Voilà, on a beaucoup opposé en fait les acteurs. Je trouve que le digital, le numérique, a cette vertu de pouvoir partager des visions, des données, et donc de réconcilier l'agriculture avec la société.
D'avoir une agriculture plus vertueuse également.
Donc, tout à fait.
Parce que vous le rappeliez tout à l'heure, les agriculteurs doivent aujourd'hui produire plus de nourriture en utilisant moins de ressources. Ils doivent consommer moins d'eau, ils doivent utiliser moins de produits chimiques, ils ont moins de surface agricole. Et en plus, ils doivent répondre à toutes nos exigences en tant que consommateurs. On veut une nourriture propre, bonne pour la santé. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est une équation compliquée.
Et en plus, le contexte économique devient de plus en plus volatile. C'est-à-dire, si encore on vous assurait des prix, une marge, etc., mais en plus, ce n'est même pas le cas. Donc, on a tous les enjeux en même temps, qui arrivent en même temps. C'est pour ça qu'il faut des nouveaux outils.
Le développement des entreprises technologiques du secteur agroalimentaire en France, ça le vend en poupe. Je tiens à dire que vous avez levé récemment donc, une belle levée de fonds. Hein,
oui,
Oui,
l'année dernière, on a levé avec un pool de partenaires, dont le Crédit Agricole, qui a décidé différents centres, différents... fonds d'investissement, on avait 2,3 millions. Et donc, ça nous permet en fait de passer à l'échelle et d'industrialiser nos outils d'aide à la décision aujourd'hui.
Merci beaucoup Jérémy Vinstin, fondateur de The Green Data.
Merci.
Alors restez avec nous, on va aller se balader. Alors, on n'est pas en direct depuis le salon de l'agriculture. Le salon a dû fermer ses portes une journée plus tôt que prévu. Mais Thibaut, notre French Trotter, lui a su anticiper tout ça. Il est parti se balader la veille. Donc, il a pu aller à la rencontre, justement, de tous ces acteurs présents au Salon de l'agriculture. Il nous a fait une petite sélection. C'est l'heure de notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, vous avez bien profité du salon, hein, même quasiment toute la semaine.
Toute la semaine, ouais.
Alors, qu'est-ce qui a attiré votre attention cette année?
Alors, si je vous dis imminence... Hôte, candies, cerises, fines.
Bah, nous égérie du salon,
bah oui,
les vaches, les fameuses vaches.
Et d'ailleurs, cette année, elle s'appelle Idéal. Et c'est vrai, c'est une méga star, en fait. Son image est déclinée partout, sur les affiches, sur les billets d'entrée, sur le site internet du salon. Mais surtout, elle est le symbole de l'excellence de la filière bovine française. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marie, qui est éleveur à Cours-la-Ville, dans le Rhône. C'est l'un des propriétaires d'Idéal, avec son père Bruno et son frère Laurent. Et il m'a tout raconté sur la mascotte de la plus grande ferme de France.
Donc Idéal, c'est une belle vache charolaise qui est âgée de 6 ans maintenant, qui pèse autour de 1000 kg et qui est accompagnée de son petit veau qui s'appelle Roi des Prés, un veau qui est âgé de 2 mois et qui accompagnera sa mère pendant 8 à 9 mois. Et bien sûr, il l'accompagne au salon parce que la charolaise est une race allaitante, race à viande. Donc elle vit avec son veau pendant ses premiers mois de vie. Et là, finalement, elle est au milieu du monde, mais elle se sent bien, elle est tranquille.
Je sens bien, je confie.
Elle rumine, là, on la voit ruminer. Et... donc c'est qu'elle est à l'aise, et les charolaises, elles sont appréciées aussi pour cette tranquillité. Donc c'est une vache d'autour de 1000 kg, à robe blanche déjà, la charolaise à la robe blanche, un dos droit et musclé, des cuisses rebondies, des pattes solides et également des belles qualités maternelles, c'est-à-dire que les charolaises, c'est des vaches qui ont beaucoup de lait, donc ça permet à leur veau de faire une croissance importante, de bien se développer dès leur plus jeune âge.
Ça s'est passé comment? Vous avez appris comment vous étiez sélectionné pour le salon?
Eh bien, en fait, c'est l'association des éleveurs charolais, le Herdbook Charolais et Charolais France, qui nous ont fait le privilège de nous contacter pour avoir la vache égérie dans notre élevage. Et la race charolaise était à l'honneur cette année. Et parmi les 1 600 000 vaches charolaises qu'on trouve en France, ils ont fait le choix qu'elle soit chez nous. Et au sein de notre cheptel, eh bien, c'est nous qui avons choisi Idéal, parce que pour nous, c'est vraiment une belle représentante de la race. Elle a les belles mensurations, les traits caractéristiques, la tête surtout, qui est très représentative de la race, le bon caractère, et voilà. C'est une belle égérie.
C'est une belle Miss France, hein. Un dos droit musclé, des cuisses rebondies, des pattes solides. Elle a tout pour elle, Idéal.
Exactement.
Alors, vous êtes allé où après avoir rencontré
Idéal? Après, j'ai continué ma petite balade. Et dans les allées du salon, j'ai rencontré Étienne Henriot, qui est agriculteur dans l'Yonne et qui est également président du GIE CRC. Alors, CRC, c'est l'acronyme de Culture Raisonnée Contrôlée, une filière dans l'air du temps qui garantit des céréales à 100% françaises et cultivées selon les bonnes pratiques favorables à la biodiversité. Et on va écouter Étienne nous raconter comment c'est né.
Alors c'est parti des agriculteurs qui un jour, il y a déjà quelques décennies maintenant, plus de 20 ans, se sont dit que ce serait peut-être intéressant que l'on construise nous-mêmes un cahier des charges de production pour pouvoir ensuite aller à la rencontre de clients potentiels qui peuvent être les meuniers, les boulangers, la transformation, etc.
Donc, ça concerne essentiellement les céréales et les céréaliers, c'est ça ?
C'est ça. Alors jusqu'à maintenant, on est surtout sur la culture du blé, mais il y a également le seigle, le sarrasin, et on s'intéresse bien évidemment à d'autres cultures, avec cahier des charges qui tient compte du positionnement des parcelles, de ce que l'on met sur les parcelles, sur effectivement une fois le stockage mis en place, pas d'insecticides de stockage, des actions en faveur de la biodiversité, etc. Et à partir de là, on se positionne plutôt sur des produits, on va dire, haut de gamme.
Des exemples concrets de produits haut de gamme.
Alors, vous avez par exemple, dans la boulangerie artisanale, on a un exemple intéressant d'une baguette qui aujourd'hui est faite avec une farine faite à partir de blases de blé CRC, donc une baguette qui s'appelle Bagatelle.
Aujourd'hui, il y a combien d'agriculteurs qui ont rejoint cette filière, ce label ?
On doit être à 3 000 agriculteurs. Enfin, ça représente en production 500 000 tonnes de blé et qui est réparti à peu près sur tout le territoire français.
Voilà une belle filière qui permet de mettre en avant la qualité des produits tout en permettant de tracer l'origine des ingrédients. Et vous le disiez, hein, c'est dans l'air du temps, hein, grâce au QR code.
Dans l'air du temps, une filière d'excellence. Ouais.
D'ailleurs, on a reçu sur ce plateau ici le cofondateur de Connecting Food,
la semaine dernière,
de la ferme digitale, qui fait partie de cette même famille qui est la vôtre. Merci, merci Thibaut pour ces nouvelles découvertes. Merci beaucoup Arnaud Richard de Ecosystème. Et merci Jérémy Vinstin, le fondateur de The Green Data.
Merci.
Merci à Maxime, notre ingénieur du son. Et merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve très vite la semaine prochaine, même jour, même heure. Et pour les retardataires ou les nostalgiques de cette émission, vous pouvez bien évidemment la retrouver en podcast.